Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui, dont je vais vous parler, et bien sûr avec son auteur, est un livre, je dirais, passionnant, atypique, qui m'a forcé à me poser beaucoup de questions, à m'interroger également sur cette vie, sur le monde, sur l'évolution des gens, de la technique, de la médecine. Parce que elle est là, la question, c'est l'évolution de la science du 15e siècle à nos jours. Pour nous parler de ce sujet hautement technique, spécifique, particulier, le livre est fort bien détaillé et pour cause, eh bien il fallait un spécialiste, bien évidemment, un médecin, un passionné aussi, et puis quelqu'un qui écrit bien. C'est une écriture vive, dynamique, impérieuse. Bonjour Pierre Lefranc. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre roman, je dirais un roman historique, La montée à l'empiré, voilà, je pense que je l'ai bien dit, aux éditions Deville. Je dis ça, je vais expliquer pour nos auditrices, auditeurs, parce que j'ai eu un mal fou à me faire à ce titre, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout fait, le retour à l'empiré, la montée de l'empiré, mais jamais le bon titre, et là, j'y suis arrivée. Alors tout d'abord, on va parler de vous, qui est Pierre Lefranc. Vous êtes médecin, je crois.
Oui, je suis médecin, je suis cardiologue.
Oui.
Je pratique la stimulation cardiaque, le pacemaker, c'est ma spécialité depuis plus de 30 ans.
Oui.
Et pourquoi est-ce devenu ma spécialité? Eh bien, c'est devenu un peu plus qu'une spécialité, c'est devenu une passion en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a guidé dans cette voie.
Oui, tout à fait.
Et donc, fatalement, je me suis intéressé à l'histoire de cette technique à laquelle je consacre ma vie professionnelle depuis des années.
Alors, tout d'abord, parlons de ce titre qui m'a tant interpellée et attaquée par tous les fronts, La montée à l'empiré. Qu'est-ce donc? Expliquez-nous.
Alors, l'empiré, c'est un terme grec, bien entendu.
Oui, je m'en doute.
Dans la mythologie grecque, l'empiré, c'est ce qu'on appelle le septième ciel. Mm-hmm. Le septième ciel, c'est le domaine où vivent les dieux.
Oui.
Et c'est le monde auquel chacun aspire. Mm-hmm. C'est une sorte de monde idéal. Mm-hmm. Ça a donné d'ailleurs l'expression « monter au septième ciel », bien entendu, qui est passée dans la langue populaire. Et puis, le terme a évolué, et au Moyen Âge, dans la religion chrétienne, l'empiré est devenu le paradis céleste. C'est-à-dire que les âmes montent au ciel, mm-hmm. et elles montent au ciel, elles montent à l'empiré.
D'accord. Ok.
Donc, cette expression a donné lieu, d'ailleurs, il y a un tableau très célèbre de Jérôme Bosch.
Oui.
Dont on parle dans le livre, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle La montée à l'empiré, et qui montre le trajet des âmes qui montent au ciel vers la lumière divine.
Mmh. L'empire divin, en fait, aussi.
C'est un peu ça. Disons que c'est surtout... Je ne suis pas sûr que le mot empire soit à mettre en parallèle avec empiré.
Oui, mais c'est ce qui me vient à l'esprit.
Oui, bien sûr. Mmh. Mais c'est surtout un monde idéal auquel chacun aspire.
Oui, vous voyez, là, c'est joli, c'est très joli. Oui.
Paradis céleste.
Oui,
la vie sur Terre n'était pas très rose. Pas forcément qu'il n'est pas rose aujourd'hui non plus, vous direz. Mais
non, pas trop.
La vie était particulièrement dure pour tout le monde. Et les gens vivaient dans l'espoir d'une vie après la mort, qui était ce monde idéal, alors on peut dire fantasmé, on peut dire espéré,
idéalisé, etc.
Mais c'était ce monde idéal, voilà, c'est ça, qu'on appelle l'empiré, qui est le paradis où les âmes pures montaient au ciel, alors que les âmes impures, elles, descendaient vers les enfers.
Vers les enfers. Alors, la transition, bien évidemment, est toute trouvée. Votre livre débute par un moment qui est très émouvant parce que, le personnage, le père qui va disparaître après, c'est Antonin, son fils. Jéronimus revient après s'être absenté un long moment de la maison familiale. Il en est très heureux. Il pensait pas un jour le revoir. Peu de temps après, il va s'éteindre. Et il laisse un héritage assez particulier quand même à ce fils. C'est que quelque temps avant sa mort, il avait eu la vision justement de ce paradis, de cet après, oui, de cet au-delà, dirais-je.
Oui, alors le père, il est malade, il est très
Oui,
vieux, il est malade, et puis bah, il perd connaissance, il fait des syncopes en fait.
Oui.
Et puis, à l'occasion de ces syncopes, il a des flashs, il a des
Oui.
illuminations, il voit des lumières, il voit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en langage populaire, les expériences de l'après-vie. Alors,
Oui.
on les fantasme énormément, ces expériences de l'après-vie, ces expériences de mort imminente, mais on sait qu'elles existent. Parce qu'il y a des tas de gens qui les ont vécues. Moi-même, dans mon expérience professionnelle, je suis spécialiste des syncopes et je suis spécialiste de ce qu'on appelle la mort subite
Oui.
de l'adulte. Eh bien, moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer des patients qui m'ont dit, mais j'ai vu ce tunnel de lumière, j'ai vu, etc. Donc, c'est quelque chose qui existe, bien entendu. Et la question que je me suis posée, c'est, mais comment cette vision de l'au-delà qui a été peinte par le peintre, comment a-t-elle pu, comment a-t-il pu la connaître, cette vision? Il n'a pas pu la connaître lui-même, parce qu'évidemment, il aurait présenté des syncopes, il aurait fait une mort subite. Au 15e siècle, on ne lui aurait jamais mis un
Bien
pacemaker ou un défibrillateur, bien entendu.
sûr.
Donc, c'est pas lui qui a vécu ça. Donc, l'idée qui s'est imposée à moi, c'est que quelqu'un lui avait inspiré cette idée, quelqu'un qui avait vécu cette expérience, la lui a racontée, la lui a décrite. Et c'est grâce à ça qu'il a pu peindre ce tableau par la suite. Alors j'ai imaginé, ça c'est le roman, c'est pas
Bien
l'histoire, c'est le
sûr,
roman.
oui, bien sûr.
J'ai imaginé le père raconter son histoire au fils et le fils peindre le tableau.
Peindre le tableau, oui. Alors, votre livre, c'est une merveilleuse épopée hein, du 15e siècle à nos jours. Je dirais que votre livre, c'est un roman, mais pour moi, c'est un roman historique, mais c'est aussi une belle aventure humaine.
C'est comme ça qu'il est construit.
Oui.
C'est une aventure humaine, c'est une
Oui.
quête.
Oui.
Il s'appelle, alors l'empiré, je l'ai défini, mais
Oui,
il y a
oui.
un autre terme que je n'ai pas défini dans le titre, c'est la montée.
La montée,
Pourquoi la
oui.
montée?
La progression, l'évolution.
Voilà, c'est la progression. Le livre est construit un peu à la façon d'un escalier.
Oui, tout à
Chaque
fait.
chapitre, chaque époque, c'est une
Il
marche
y a
de
des
cet
paliers.
escalier.
Il y a des comme des paliers, vous savez, comme quand on remonte à la surface. Moi, j'ai eu cette image en tête. Quand
Ah, super.
on est sous l'eau, il y a les paliers de décompression. Ben là, c'est des paliers d'évolution pour moi.
Voilà, c'est la montée progressive, marche après marche, jusqu'à arriver au monde que l'on espère, qui est le monde hyper technologique d'aujourd'hui.
Oui.
Ce que j'ai voulu illustrer dans ce livre, donc le tableau au départ, ce n'est
Oui.
qu'une prologue,
Oui.
mais le thème du livre, c'est la transformation entre le Moyen Âge technologique. Alors, ce n'est
Oui.
pas le Moyen Âge, le
Oui.
18e siècle, on n'est plus au Moyen Âge, bien entendu. Mais au niveau technologique, on n'a pas évolué depuis le Moyen Âge. Vous savez, dans l'Antiquité et au Moyen Âge, on estime, d'après les fouilles, les moyens archéologiques, l'histoire et puis la littérature dont on dispose, l'espérance de vie,
Oui.
elle était de 35 ans.
Oui.
Au début du 18e siècle, au moment où on commence à vraiment mesurer l'espérance de vie de la
C'est
population,
50
avec
ans.
des
C'est 50
statistiques,
ans. C'est
elle est
50
de
ans.
35 ans.
Oui.
Elle n'a pas évolué. À la fin du 18e siècle, l'espérance de vie en France, elle est toujours de 35 ans.
Ah oui,
Depuis l'Antiquité,
même pas 50 ans, ça n'a pas un
non,
petit peu évolué?
elle est toujours de 35 ans. Et elle commence à augmenter tout doucement à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, on est à 80 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'en 200 ans, on multiplie par plus que deux l'espérance de vie, alors que pendant 2000 ans, elle n'a pas évolué? Il y a une révolution qui s'est passée. Il y a une révolution technologique. Et on est passé de ce Moyen Âge technologique qu'est le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui un monde hyper technologique avec effectivement des moyens médicaux, mais pas seulement.
Oui,
On a fait énormément de progrès dans d'autres domaines.
bien
On
sûr.
peut parler des transports, par exemple. Au 18e siècle, on circulait à cheval.
Bien sûr.
Aujourd'hui, on a des voitures électriques, on a des avions, on a des fusées pour aller dans l'espace. On peut parler aussi des communications. Au 18e siècle,
Oui,
on communiquait par lettres.
Oui, par
On a
lettre, oui.
commencé à inventer au début du 19e siècle le sémaphore aérien. Puis après, il y a le Morse qui est arrivé, le télégramme électrique. Puis aujourd'hui, on en est au smartphone, etc. Mm. Donc, il y a vraiment, dans tous les domaines que l'on peut imaginer, on pourra certainement en trouver beaucoup d'autres, on a cette évolution. Et moi, ce que j'essayais de comprendre, c'est comment on est passé de ce Moyen-Âge technologique jusqu'à l'époque hyper-technologique d'aujourd'hui. Mm. Et ça, c'est grâce à une nouvelle façon de penser qui apparaît au XVIIIe siècle avec les philosophes des Lumières.
Oui, tout à fait. Oui.
Qui nous montrent comment il faut réfléchir. Ils inventent la logique déductive qu'on ne connaissait pas avant. La logique, on la connaissait depuis Socrate, bien entendu.
Bien sûr.
Mais la logique déductive, c'est-à-dire observer et déduire derrière, à partir d'un raisonnement, eh bien ça, on a commencé à le pratiquer qu'à cette époque-là. Et c'est cette révolution des Lumières, c'est ce que Kant nous pousse à faire en disant « oser penser ». Eh bien, c'est cette façon de penser librement en faisant abstraction de toutes les contraintes idéologiques qui paralysaient la société jusque-là. Eh bien, ça a permis aux hommes et aux femmes de travailler et d'avoir des idées, de les développer, de les partager et d'inventer une vie nouvelle, un monde nouveau.
Alors,
petit à petit, on progresse et on arrive à aujourd'hui.
Alors, tout au long du livre, parfois je me suis arrêtée pour y réfléchir, penser, puis en même temps faire des recherches aussi par rapport justement à cette évolution de la réflexion, de la pensée. Mais je me suis dit aussi, mais est-ce que au travers aussi des différentes épidémies, des guerres, est-ce que l'homme n'a pas justement envisagé les choses différemment, y a réfléchi, le pourquoi du comment, comment est-ce qu'on pourrait guérir, comment est-ce que l'on pourrait évoluer? Est-ce que ça aussi, ça n'a pas modifié la vision de l'homme?
Alors, si on regarde les guerres du Moyen-Âge et les guerres de Louis XIV, il y a rien qui change.
Ouais.
On a au XVe siècle, on a Ambroise Paré qui commence au XVIe siècle. On a Ambroise Paré qui invente la suture et la ligature vasculaire. Ça va pas sauver beaucoup de vies, ça va sauver quelques vies, quelques amputés de guerre qui vont survivre.
Malgré tout, on a quand même Hippocrate 450 ans avant Jésus-Christ qui apporte un certain nombre de choses aussi quand même.
Bien sûr, parce qu'il observe la nature.
Oui, ben oui.
Mais il ne fait qu'observer la nature.
Mm-hmm.
Et ce que Hippocrate décrit, alors d'abord, c'est parfois un petit peu fantaisiste, hein, parce que Hippocrate et Galien,
oui.
Effectivement, ils sont encore enseignés au XVIIIe siècle.
Oui.
Et la médecine qui est enseignée au XVIIIe siècle dans les universités, c'est toujours la médecine d'Hippocrate et de Galien.
Et de Galien. Alors, il faut dire que Galien...
Ambroise Paré n'est pas médecin.
Oui, 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 tout à fait.
Il est chirurgien, c'est-à-dire qu'il est barbier. Et en tant que barbier, il sait manier le rasoir et le couteau, mais il n'est pas médecin. Il n'a aucune formation médicale. Les premiers chirurgiens ne sont pas des médecins. Et ce n'est qu'à partir des guerres napoléoniennes que l'on va voir apparaître des médecins qui vont vraiment commencer à pratiquer la chirurgie. Avec une façon de pratiquer qui va leur permettre de collecter des données, de collecter des observations et de progresser dans leurs connaissances. Mais là encore, on est au début du 19e siècle.
Mais alors, comment expliquez-vous? Parce que... En lisant votre livre, effectivement, on a l'impression quand même d'une évolution assez lente. Mais moi, j'ai l'impression tout d'un coup que la vision, la réflexion de l'homme, elle éclate, comment dire, qui prend conscience d'un certain nombre de choses, alors que finalement, on a l'impression qu'il était un petit peu atone durant tous les siècles passés.
Alors, il n'était pas atone, on ne peut pas dire qu'il était atone. On peut dire qu'effectivement, la pensée jusqu'au début du XVIIIe siècle... La pensée, elle est paralysée par une chape qui empêche de penser librement.
Ça peut être la méfiance, la peur, l'inastruction aussi, non?
Alors, il y a l'inastruction, bien entendu, mais il n'y a pas que l'inastruction. Il y a aussi une instruction qui est faite pour ça. Notamment, je pense. À la liberté, à l'opposition à la liberté de penser qu'exerce l'Église et la religion en général sur les libres penseurs.
Oui.
N'oublions pas que Galilée a failli finir sur le bûcher,
oui.
tout simplement parce qu'il avait l'audace de penser différemment de ce qui était prévues par les canons de l'Église.
Mmh,
et il y en a qui, il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance d'échapper au bûcher.
Simplement
parce qu'ils ne pensaient pas qu'il fallait.
Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que cette instruction justement religieuse, quelque part voulue, a un petit peu obstrué l'esprit humain qui l'a obligé d'avancer. Et quand il s'est libéré de cela, il a pu avoir une vision plus ouverte, plus intelligible, intelligente de la science et de l'évolution à ce moment-là.
Oui, certainement. Certainement, c'est cette liberté de penser qui change tout.
Mm-hmm.
À partir du moment où la liberté réussit à s'envoler, la pensée, pardon, réussit à s'envoler et à faire abstraction de tout cet obscurantisme qui la paralysait jusque-là, à partir du moment où l'Église n'a plus le pouvoir politique de sanctionner les gens qui ne pensent pas comme elle, à ce moment-là, les gens commencent à oser penser, ils commencent à oser parler, à oser communiquer, et on voit apparaître cette révolution. Il faut revoir, il y a une très belle illustration de ça, qui est l'opéra de Mozart, La Flûte Enchantée,
où
on voit cette reine de la nuit, qui est la reine, bon, elle a une voix magnifique, mais elle est quand même le symbole de l'obscurantisme qui empêche le prince et la princesse de s'envoler vers la connaissance.
Oui, oui.
Bon, c'est une allégorie, bien entendu, mais ça montre très bien ce qui se passe à cette époque-là, à la fin du XVIIIe siècle en Europe.
Alors, on a dit qu'on en parlerait parce que je pense que c'est un moment important du livre, le tableau de Géronimus. C'est un être vivant, c'est un être à part, ce tableau, cette illustration, cette ouverture vers le monde, cette prise de conscience, comment dirais-je, de la réflexion, par l'image et par l'envie d'avancer, d'aller de l'avant.
Alors c'est un petit peu une allégorie qui introduit le livre, ce tableau.
Oui, j'ai bien aimé. Oui.
Il est très présent. D'ailleurs, il donne son titre au livre.
Et
bien
oui.
Entendu.
Et bien sûr, oui.
Mais effectivement, c'est une. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'illustrer cette évolution en utilisant ce thème plutôt que de parler des transports et de la communication que je disais tout à l'heure.
Mais non, mais c'était très bien. Enfin, moi j'ai trouvé ça très intéressant de passer par ce biais parce que ça aurait été plus facile par les transports. Là, vous êtes passé par un biais où il fallait faire appel à la réflexion, à l'intelligence et se poser les vraies questions aussi. Vous nous avez aussi forcé à poser les questions.
Voilà. Et puis on joue avec. On est à la frontière entre la vie et la mort.
Oui, aussi.
Et ça, c'est un vrai sujet de roman.
Oui, c'est vrai.
Ce cortège de joie, ce cortège de drame aussi, parce qu'il y a des personnages, on voit des jeunes, on voit un enfant qui meurt à un moment, parce que bah, tout simplement, la technique n'est pas encore au point.
N'est pas encore au point.
Et puis après, on va sauver des vies. Il y a un autre tout petit bébé qui est sauvé un petit peu plus tard.
Oui.
Le premier pacemaker applicable.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que par la, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, par la culture de l'échec, entre guillemets, on arrive aussi à l'espoir.
Absolument.
Et à la réussite.
Absolument. Mmh. Absolument. Mmh. Mais la science est une succession d'échecs qui sont contournés.
Mmh.
On apprend, en faisant de la recherche, on apprend à contourner les échecs pour arriver à la réussite.
Mmh.
Et c'est comme ça qu'on avance.
Mmh.
C'est comme ça qu'on a avancé, et comme ça qu'on est arrivé à ce monde-là. Et c'est ces drames qui ont permis d'avancer pour aller plus loin et pour trouver la solution pour que cela ne se reproduise plus.
Mmh.
Et c'est ce que j'essaye de montrer.
Oui.
Et c'est ces vies qu'on arrive à sauver en stimulant le corps avec l'électricité.
Mmh.
Ce rapport entre l'électricité et la vie qui finit par arriver à la technique qu'on a aujourd'hui et qui nous permet de sauver des vies.
Mais
c'est ça qu'on cherche tout au long du livre.
Oui.
C'est ça l'empirer. Mmh. Et c'est ça
arriver
à la fin.
Mmh. Alors justement, c'est un espoir vers le meilleur, vers cette lumière, mais aussi vers le sauver l'autre. Et on s'aperçoit tout au long de votre livre que finalement malgré les échecs, hein, malgré l'évolution qui a stagné, enfin qui est restée un petit peu comme ça en retrait pendant des siècles, mais que finalement le vouloir et le pouvoir de l'homme, ça a toujours été de sauver l'autre aussi, de chercher à sauver d'une maladie, d'une blessure, de faire revenir des gens à eux alors qu'on pensait que c'était fini. C'est aussi tout ça, cette évolution, et c'est ce qu'on ressent aussi dans le livre, ce vouloir et ce pouvoir.
Alors, c'est la quête, c'est ce que je le fais dire d'ailleurs à un des personnages, oui. Hein, c'est cette lutte contre la mort, c'est, oui. C'est l'objectif de tous ceux qui bien s'investissent sûr. Dans ce domaine-là,
bien sûr.
Qu'ils soient médecins ou qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient chercheurs,
bien sûr.
C'est ça que l'on recherche, effectivement. Mm-hmm. C'est notre but et c'est ce que... C'est des échecs que l'on apprend pour continuer à avancer.
Mmh. Je me suis posé
quand on prend conscience de cette que cette quête est vraiment notre objectif, là vraiment on a atteint notre maturité et on avance vraiment à grands pas.
Oui. Alors je me suis posé aussi, vous voyez, je me suis posé plein de questions avec votre livre entre les mains.
C'est très bien.
On démarre du 15e siècle, mais je me suis dit finalement on aurait pu aller plus en arrière, où la médecine où l'évolution, la pensée était plus barbare, plus primaire. Oui. Pourquoi ne pas avoir été un peu plus en arrière?
Parce que mon livre n'est pas un livre d'histoire.
Oui.
Si j'avais voulu faire l'histoire de la médecine, oui, j'aurais pu
oui, bien sûr, bien sûr.
À
Hippocrate. Voilà.
voilà. Mais c'était pas mon but.
Oui, oui, bien sûr.
Mon but,
oui.
C'est d'écrire un roman.
Oui.
Et mon objectif, ça n'est pas de décrire l'histoire de cette technique, mm-hmm. même si c'est une technique qui me passionne.
Bien sûr.
Mon objectif, ça a vraiment été d'illustrer la révolution du XVIIIe siècle et comment cette révolution a permis d'aboutir en 200 ans au monde d'aujourd'hui, alors qu'en 2000 ans, il s'était pratiquement rien passé.
Oui.
Donc remonter plus loin, si vous voulez. Mmh. Mon livre, pour moi, il ne commence pas au XVe siècle. Mmh. Il y a un prologue.
Oui, tout à fait.
Au XVe siècle, mais qui n'est qu'un prologue. Mmh. Le livre, il commence au premier chapitre. Mmh. Et là, on est vraiment en Italie au XVIIIe siècle, avec les premières expériences sur l'électrification des grenouilles. On commence à découvrir l'électricité et on commence à l'appliquer aux muscles.
Oui.
Et il y a un médecin qui se dit, un peu plus tard, quand il commence à s'attaquer, quand il dit les grenouilles, il y en a marre, on va s'attaquer à autre chose, il va s'attaquer à des hommes, c'est-à-dire à des cadavres.
À des cadavres, oui.
Qui va commencer à électrifier, il va se dire, mais ça marche bien. Donc peut-être que si on électrifie ces cadavres, peut-être que si on électrifie le cœur, si on électrifie les muscles, si on électrifie le cerveau, peut-être qu'on va pouvoir faire revivre les morts. Et cette réflexion-là, c'est Aldini, donc le neveu de Galvani, qui l'amène au tout début du 19e siècle, avec une expérience très célèbre et qui est parfaitement authentique, qui est à Londres. Et il a vraiment eu cette réflexion, et il s'est vraiment posé cette question. Mm-hmm. Et bien sûr, il faudra attendre 200 ans encore, ou en tout cas 150 ans par rapport à lui, pour arriver à cet objectif. Mais lui s'est déjà posé cette question à ce moment-là. Et ça, cette question-là, jamais il n'aurait pu se la poser avant la Révolution des Lumières, parce qu'on lui aurait dit non, la mort, c'est Dieu qui la décide, et on n'a pas le droit d'aller contre. Lui, il prend des morts, et il essaye de les faire revivre, et personne ne vient, au contraire, il passionne tous les gens qui viennent le voir, personne n'ose se mettre devant sa route en disant, attention, vous n'avez pas le droit de toucher aux morts, ils sont morts, et c'est Dieu qui l'a décidé. Non, au contraire, on lui dit, oui, c'est passionnant, continuons à chercher pour voir si on pourrait, par hasard, faire revivre ces gens-là.
Alors, c'est vrai ce que vous disiez par rapport à la religion. Moi, je me souviens, j'avais lu un livre très intéressant. C'était sur ces médecins itinérants. C'était 1400, oui, c'est ça, qu'un 15e siècle, de ces médecins itinérants qui soignaient qu'elle est dans les villages et qui parfois étaient punis parce qu'ils allaient à l'encontre de la religion, hein, de ces prêtres, de ces moines qui étaient contre.
De la volonté divine. divine.
La volonté divine, et que soigner ou sauver quelqu'un était presque un péché. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un était blessé et qu'il était aux portes de la mort, eh bien, c'était la volonté divine, il fallait surtout pas le sauver. Et ça m'avait frappé. Et justement, j'ai fait un parallèle à votre livre, où là, c'est le contraire, c'est sauver à tout prix. Trouver les techniques, le cœur, le cerveau, et donner la possibilité de. Voilà, j'avais fait ce parallèle par rapport à...
C'est tout à fait ça, et c'est ça qu'a changé la révolution des Lumières, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'obscurantisme pour rentrer dans la lumière, avec cette liberté de penser qui change tout.
Oui, c'est vrai. Liberté de penser, et puis de réfléchir, et surtout aussi d'échanger, parce que à partir du moment où on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas échanger les informations, il n'y avait pas d'avancée. Mais il y a aussi le fait de parler et de partager aussi qui a été très important dans cette évolution au moment des Lumières, justement, aussi.
Oui, alors tout à fait. Cette communication, le savoir, apprendre et savoir n'a aucun sens s'il n'y a pas de communication derrière.
Mais oui.
Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, lorsque Aldini réalise cette expérience que je ne dévoilerai pas parce qu'il faut la lire
tout à fait.
Mais dans cet amphithéâtre d'un hôpital de Londres, dans l'assistance, il y a les médecins de Londres qui sont là, bien entendu. Il y a le président du collège de chirurgie qui a un rôle dans l'expérience. Mais il y a aussi des curieux, il y a des badauds, et surtout, il y a des journalistes. Et les journalistes vont décrire cette expérience, et dans les journaux de Londres, le lendemain de l'expérience, on ne parlera que de ça. On ne parlera que du médecin italien qui a ressuscité le pendu de Newgate. Et ces articles-là, ils existent.
Je les ai vus. J'ai vu sur Internet, j'ai vu que ça existait.
Mais bien sûr, de même que l'article de... alors, on est un petit peu plus loin, j'en parlerai après. Et quand Marie Shelley, en Suisse, avec son mari Percy Shelley et Lord Byron, l'ami de son mari, parle de littérature fantastique, il parle de cette expérience-là qui a eu lieu 15 ans auparavant et qu'ils connaissent parce qu'ils l'ont lu dans les journaux. Et ça, c'est très important parce que jusqu'en Suisse, cette expérience, elle est connue. Et lorsque, plus tard, au début du XXe siècle, en 1929, ce médecin australien va inventer un appareil pour stimuler le cœur des nouveau-nés. Alors ces expériences, on ne sait pas très bien pourquoi ça s'est arrêté, ça j'ai pas réussi à le déterminer, mais les articles, j'ai ressorti l'article, il est dans le Sydney Daily de 1927, j'ai ressorti cet article, il existe. Et en 1929 à New York, le médecin qui va faire la même chose va ressortir cet article et il va dire oui, il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. D'ailleurs, j'ai lu l'article, donc on va essayer de faire pareil. Et c'est grâce à cette communication qui se généralise au 19e siècle que les idées vont circuler.
Bien sûr.
Et que d'autres personnes, à des milliers de kilomètres,
vont pouvoir
comparer des idées
tout à fait.
Et les continuer, les poursuivre, les développer et créer autre chose.
En tout cas, moi, j'enjoins chacun à prendre ce livre et à le lire parce qu'on y apprend plein de choses. C'est fort intéressant et puis ça permet aussi de faire des recherches, aller sur Internet puisque voilà, on est dans ce monde-là aujourd'hui et de faire des recherches. On aurait pu encore en parler des heures, j'aurais pu vous garder encore un peu plus longtemps, mais voilà, il n'y a que les bonnes choses qui savent se séparer. En tout cas, je vous remercie infiniment pour cette discussion fort intéressante pour votre ouvrage La montée à l'empyrée aux éditions De Ville. Rapidement, vous avez d'autres projets d'écriture bientôt, Pierre Lefranc?
Ça c'est un grand secret. Oui, bien sûr, on ne s'arrête pas d'écrire. Quand on a écrit un livre comme celui-là, on a fait beaucoup de recherches.
J'imagine.
On ne peut pas s'arrêter. C'est un plaisir, l'écriture.
Oui.
Donc, effectivement, oui, il y a la passion de mon métier.
Oui, bien sûr.
Technique, je crois que quand on lit ce livre, on ne peut pas l'ignorer. Et puis il y a la passion de l'écriture, et puis les deux se sont réunis dans cet ouvrage.
Et en tout cas, je vous retrouverai avec grand plaisir dans quelques temps pour un nouvel ouvrage. Voilà, La montée à l'empyrée. Ouais, je me suis habituée au titre. Il suffisait que je vous rencontre et que je parle avec vous pour que je l'apprivoise aux éditions De Ville. Merci infiniment et je vous dis à une prochaine fois.
Merci beaucoup, ce sera avec plaisir.
Quant à nous, nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure littéraire. En attendant, vraiment, je vous conseille ce livre, on y apprend plein de choses. Voilà, la culture, c'est la vie et c'est l'espoir. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.